Bienvenue à la French Connection, épisode 75. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Damien. Qui n'a pas perdu l'habitude de oublier de fermer son micro.
Salut tout le monde!
Et finalement, Patrick.
Hey, salut tout le monde, ça va?
Oh, très bien, oui. Yes. Donc, commençons par les shameless plugs. 5 décembre, Misaka présente la sécurité des systèmes d'information de leur conception. Une date encore inconnue dans le mois de décembre où il y aura le Québec sec des fêtes. 22 et 23 janvier, FIC à Lille, que je vais manger de la poutine avec Damien.
Ça va être bon!
Ça va être merveilleux. J'ai encore un doute raisonnable sur la qualité de la poutine, mais ça, on pourra commenter allègrement en ce moment-là. Et on va également faire un podcast croisé avec nos limites Sécu. Et finalement, le 8 avril, Québec numérique organise le Sécure. Donc, commençons avec des nouvelles un peu disparates cette semaine. L'usage des ransomware a drastiquement chuté.
Oui, c'est une étude qui est signée du russe Kaspersky qui explique qu'au dernier trimestre de cette année, eh bien, ils se sont rendus compte que le ransomware, même s'il y a quand même eu plus de 2,7 millions de leurs clients infectés, juste entre guillemets, hein, ça veut dire que 2,7 millions de leurs clients, c'est que le logiciel n'a pas l'air d'être super efficace. Mais toujours est-il qu'ils annoncent par contre, sur la même période, 5 millions d'utilisateurs piégés par eh bien, de la crypto-monnaie. Tout simplement, les gens téléchargent des logiciels à droite à gauche, se retrouvent avec souvent des contrefaçons de programmes hein, téléchargés sur du torrent et compagnie, et ils se retrouvent donc avec une machine eh bien, qui est en train de fabriquer de l'argent eh bien, pour des pirates. Alors, c'est intéressant parce que on se rend compte que si cette modulation, cet événement, ces chiffres vont de plus en plus du côté eh bien, du Bitcoin et compagnie, ça montre surtout que comme les gens se font infecter leur machine, bah déjà, ils doivent s'en rendre compte. Par rapport à un ransomware, hein, on a un compte à rebours et on pleure en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Au moins que la crypto-monnaie, eh bien, du coup, à part éventuellement la machine qui rame ou qui plante, beaucoup de gens ne savent véritablement pas ce qui se passe hein, à l'intérieur de leur bécane. Aussi, c'est intéressant, c'est que s'ils s'en rendent compte, ils ne vont pas déposer plainte. Bonjour, monsieur le policier. Eh bien, écoutez, j'ai téléchargé des contrefaçons et un vilain pirate a mis un logiciel dans ma machine. Donc là, c'est un détournement de technique par les pirates qui montre qu'ils sont toujours à l'affût hein, de ce genre de technologie. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça ne va pas durer. Pourquoi ? Parce que ça fluctue tellement, hein, le crypto-monnaie, compagnie, Bitcoin et compagnie, que comme les pirates ont besoin d'attaquer rapidement, parce que rapidement, pour eux, c'est de l'argent rapidement, vu comment ça fluctue là depuis quelques mois, 5 millions de potentielles machines qui font du planche à billets, c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que tout le monde évolue, sauf à première vue les utilisateurs.
Ouais, puis en même temps, eux suivent la vague de qu'est-ce qui est profitable. Fait que si la crypto tombe, ils vont switcher peut-être au Western transfert bancaire, là, l'original. Ils vont aller vers où ce que ça fonctionne. Puis c'est la même chose pour la crypto-monnaie. Excuse pour les ransomware, ça fonctionne aujourd'hui, mais l'année prochaine, c'est d'autres choses d'intéressant qui fonctionnent mieux. Leur attaque peut simplement changer.
Hein. La semaine dernière, j'ai eu 3 entreprises qui m'ont contacté pensant que j'allais pouvoir les aider. Ils me disent, ben voilà, on a un programme devant notre écran, là, c'est tout rouge, il y a un compte à rebours. Le pirate nous parle du Bitcoin, vous savez comment on paye? Déjà ça, c'est super inquiétant. Les mecs, en fait, ne savent pas payer, donc tant mieux. Mais imaginez le jour où les pirates vont trouver un moyen où tout le monde va savoir payer simplement en claquant du doigt. Là, on va pouvoir s'inquiéter, je pense.
Ouais, ça, c'est pas la bonne question. C'est pas comment on paye, c'est comment on fait pour pas se faire prendre. Oh. Ben, c'est comme à Québec, il y a eu la même chose. Là, la ville de Meraki, je me souviens plus le nom exact. C'est même situation. On a décidé de payer 30 000. Puis c'est une ville, une municipalité. Puis là, ça a fait le tour des médias. Là. C'était vraiment pas super.
Et il y a une autre étude aussi là en France qui expliquait que un directeur des services informatiques sur 3 était prêt à payer une rançon parce que ça lui coûterait moins cher en images et en argent que de tout réinstaller. Et ça fait super peur, quoi. Enfin, super peur, je veux dire la mentalité. Hein. Vous savez, les 3 petits singes, j'entends rien, je dis rien, je vois rien. Et les gars, il va falloir franchement s'enlever le doigt du pip parce que c'est, voilà, ça ne peut pas passer comme ça, quoi.
Non, ça, c'est effectivement troublant. Le nombre de fois qu'on en a parlé, que le fait d'encourager. On légitimise leur business en payant. Donc, aussi longtemps que les entreprises vont continuer à payer, vont continuer à nous courir après et essayer de nous extorquer de l'argent.
Oui, ça fonctionne seulement parce que le monde paye. l'attaque ne fonctionnerait pas si on ne payait pas. Mais évidemment, mais là, les entreprises sont un peu mal foutues dans le sens qu'ils n'ont pas de backup, ils n'ont jamais testé ça, ils n'ont jamais rien pensé. Puis surtout les PME, puis les villes, les endroits où la sécurité est très, très loin derrière. Mais là, eux, leur première réaction, c'est le paiement.
Ouais, c'est plus facile, puis c'est tellement dommageable pour l'ensemble de l'ensemble des gens que
ouais, puis
de faire ça.
En plus, c'est quand tu regardes le nombre de criminels qui vont aller payer, pas payer, mais redonner les informations qui ont été chiffrées, c'est pas 100%. Il y en a beaucoup qui reçoivent le paiement, puis ils se sauvent en courant.
Sans compter les pirates qui se tapent dessus et qui trouvent le moyen de modifier l'adresse de Bitcoin, par exemple. Et donc, du coup, l'argent ne va pas au bon pirate et donc les gens jamais pourront déchiffrer leurs fichiers.
Il n'y a pas de code d'honneur chez les malfrats.
Oh non. Puis, je ne sais pas si tu l'avais vu, ce talk-là, au DEFCON, Nick, il y a une couple d'années, mais c'était l'histoire d'une personne qui travaillait dans une vraie entreprise, mais l'entreprise était totalement illégale. Il développait des malwares, puis des adwares, des choses comme ça. Puis, ce qui était intéressant du talk, c'était que l'attaque entre les organisations de pirates. Fait qu'eux, pour que leur malware s'installe, ils faisaient du code pour désinstaller tous les autres malwares présents sur le poste pour que le leur soit au top et qu'ils volent le plus d'infos et que ça soit pas partagé. C'était quand même assez intense comme sujet.
Ouais, c'est très amusant. Bien, c'est ça. En même temps, on a vu dans la même lignée des malwares, ils arrivent, patchent la machine, s'installent, patchent la machine pour pas que les autres rentrent. Fait qu'ils viennent fermer pour se protéger eux-mêmes. Fait que c'est tout à fait... Quel univers fascinant. Mais de toute façon, je pense que Damien va voir dans le black market apparaître probablement toute la migration de crypto-monnaie vers d'autres choses. Puis on va sûrement avoir d'autres façons de monnayer leurs mauvaises intentions.
La grande mode en ce moment qui revient, parce qu'elle n'est pas nouvelle, hein, c'est de l'échange. Hein. J'ai une base de données de 100 mégas, je te l'échange contre une base de données de 200. On revient un peu dans l'état d'esprit du Juarez il y a une quinzaine d'années. Je te donne un fichier contre trois. Donc, c'est intéressant de voir après comment ils vont le faire fructifier en argent sonnant et trébuchant. Mais je n'ai jamais vu autant de boutiques, hein, je vais être très clair. Je n'ai jamais vu autant de boutiques vendant des lignes de gens piratés. Alors là, en plus, avec les dernières fuites de données, hein, Dell, Marriott, Donut.
En parlant de fuite, mais Marriott est un cas assez désastreux.
Vraiment, c'est été établi comme étant le deuxième plus grande brèche après Yahoo, avec 500 millions de personnes affectées. Quand tu fais un petit calcul rapide, c'est presque une personne sur 10 là, sur la planète. Aucun rapport. Et en fait, c'est pas mal tous les utilisateurs de la branche de l'hôtel Marriott. Mais ce qui est intéressant de ce vol de données-là, pas que c'est le fun, mais le pourquoi qui est arrivé, c'est que l'entreprise Marriott a acheté une banque, pas une banque, mais une autre sorte d'hôtel, une autre branche, qui, elle, dans l'achat, n'a pas été analysée comme faux parce que la brèche a été découvert qu'elle existait depuis 2014. Ça fait plus que 4 ans qu'elle est en place. Et l'achat de Starwood a été fait après. Donc, ils ont inhérité avec l'achat d'une entreprise, d'une suite d'hôtels, la brèche de données complète là, de 500 millions de personnes. Donc, pas super, mais ça en dit énormément sur les entreprises, sur le due diligence quand tu fais l'achat, sur les analyses, pas l'intérêt, mais le focus des entreprises avec la sécurité. C'est pas parce que tu mets beaucoup de budget que nécessairement que tout est sécuritaire, mais c'est plus où est-ce que tu le mets et comment tu le fais. Vince?
Starwood était au courant de cette brèche-là, même pendant la vente?
Pas de ce que j'ai lu encore, mais l'analyse qui a été faite dans les derniers mois démontre qu'elle existait avant. Je suis pas mal sûr qu'il n'y en avait aucune idée, mais... Il va y avoir certainement d'autres nouvelles qui vont apparaître dans les prochaines semaines là, qui vont nous montrer ça.
Ça veut-tu dire que dans l'avenir, les achats d'entreprises entre elles, dans le due diligence, va falloir inclure justement les éléments de cyber-risque?
Mm-hmm.
On n'a plus le choix, là.
Mais c'est déjà comme ça, mais pour les entreprises qui sont security aware, là, qui savent un peu quoi faire en sécurité, ils vont aller regarder l'équipe de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont en place, comment ça fonctionne, etc. Mais ce n'est pas un requis du business aujourd'hui, mais ça va le devenir très rapide, je pense, après cette brèche-là.
Ben, il faudra, parce que c'est complètement fou de ne pas vérifier la sécurité de ce que tu achètes. Ça me semble un non-sens.
Surtout que, allez, entre vous et moi, depuis un an et demi, il y avait des, on va dire, des failles qui étaient diffusées gentiment, bénévolement, dans certains black markets, dont Hamza. J'ai souvenir très clairement d'avoir vu deux injections SQL proposées un petit peu à la volée à ceux qui voulaient s'en servir. C'est intéressant de voir que ce genre de choses n'est pas repéré aussi par ces gens qui ont quand même quelques milliards en poche. Donc, ils pourraient mettre quelques millions de gens qui veillent aussi.
Oui, tout à fait. Puis, un autre point par rapport aux gens de due diligence sur la sécurité, j'en parlais sur un chat cette semaine quand c'est arrivé. Puis beaucoup de personnes se sont mis à dire « Ah oui, mais telle entreprise a l'air très sécuritaire, parce que quand je suis allé dans leur bureau, c'était très militaire comme setup, c'était impossible de rentrer, etc. » Tu me fais penser à ça, Damir, parce que l'exemple que j'ai donné, mais c'est parce que oui, mais as-tu déjà regardé leur site web? 2-3 injections SQL, on s'en fout de la porte militaire super dure à rentrer. Là, tu dompes la base de données avec 2 requêtes. Tout le monde en business, le monde des business qui ne sont pas très cyber, très sécurité, etc., ben eux vont regarder que la porte est très bien barrée, mais ils ne vont jamais penser à aller regarder le système informatique et sa sécurité.
Il est là le jeu, hein, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un casque d'une banque, si on peut faire un trou dans le mur, c'est plus rigolo que de passer par la porte.
Eh ouais, exact. Ça fait des beaux films, briser une porte, mais en réalité, c'est pas comme ça que le monde le font.
L'important, c'est d'arriver le plus vite possible à l'argent et avec le moins de pépins possible. Et dans le fond, dans la même ligne d'idée, Netflix, en vente de comptes qui se fait allègrement.
Oui, alors c'est intéressant, hein, parce que là, j'étais dans une thématique, bon, c'est mathématique, hein, mais fuite de données, et je n'ai jamais vu autant de comptes Netflix mis en vente sur les internets, black market, mais que ça soit dark web comme sur le web. Hein. Il suffit de taper, par exemple, dans eBay, et on se retrouve avec des comptes Netflix à 1$, 2$. Les gens devraient peut-être faire un petit peu plus attention quand même aussi, parce que ça fait partie de leur vie privée, de leurs données personnelles. Alors, pas mal de gens me disent « Oui, mais bon, qui ça va intéresser de savoir que je regarde le dernier Stallone ou alors le dernier Steven Seagal contre Trump, enfin, peu importe. » Oui, mais c'est des choses qui peuvent se revendre sous le manteau, c'est des choses qui montrent aussi votre vie, votre façon de vivre, et puis potentiellement aussi connaître les machines qui sont utilisées pour pouvoir regarder ce que vous regardez. Donc ne pensez pas qu'une fuite de données sur des sites qu'on peut considérer comme pas vraiment sensibles ne vous mette pas en danger. Pensez toujours, alors je me permets de dire ça, mais pensez toujours à votre identité, mais aussi à votre réputation numérique. Et donc, ces comptes se vendent comme des petits pains. J'en ai vu à 1,50€, maximum 3€. Alors, en plus, les gars font des prix. Hein. Ça a été Black Friday, Cyber Monday. Là, pour Noël, les mecs te font des prix. Alors, tu auras la version HD, tu auras la version 3 postes, 4 postes, etc. Bon, c'est un manque à gagner aussi, hein, qu'on le veuille ou non, à l'entreprise qui est en face, même si on ne va pas la plaindre. Mais ça reste quand même de l'argent qui manque dans les caisses. Et pensez à vous, surtout utilisateurs. Hein. C'est votre vie et votre identité numérique qui est mise à mal. Et ouais, puis apprécierais l'humour, quoi.
Dans ton compte Netflix, tu as quand même une carte de crédit, ton adresse, ton nom, c'est pas juste le compte puis tes statistiques de qu'est-ce que tu écoutes. Je veux dire, ça peut jouer sur la donnée qui est vendue, mais en même temps, comme tu expliques, s'ils vendent les comptes, c'est pour l'utiliser, etc. Donc, c'est sûr que ça peut peut-être pas t'affecter en tant que tel, mais ça détruit, ça revient à du piratage de films au lieu du URS du temps, là.
Mais on revient toujours au fait que le problème des fuites de données, c'est que c'est toute l'accumulation de ces informations-là deviennent de plus en plus dommageables. C'est pas juste une fuite Netflix en soi, c'est pas grave. Mais Netflix, le Marriott, le Nel, là, tu les accumules. Et tout ça fait qu'au bout du compte, il est probable que tous les citoyens de la Terre ont dû être touchés par ces fuites-là. Et on a maintenant des profils qui sont accumulés par Google ou Facebook de tous ces gens-là pour mieux nous pousser de la pub, pour mieux nous amener ailleurs. Plus
On parle
du côté pas obscur, mais quand on tombe du côté obscur, ça leur donne une capacité de créer des identités qui n'ont jamais été affectées par avant. C'est-à-dire que des gens qui sont propres au niveau de leur identité numérique, ils peuvent être utilisés sauvagement.
Oui, exact. Puis on peut retourner au concept de réutilisation des mots de passe aussi. Là. Si ton mot de passe est pareil sur ton compte courriel, ben c'est game over encore une fois. Là.
Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi servir, si jamais on vous vole votre compte Netflix, vous pouvez vous retrouver dans un pack de 10 000 comptes Netflix qui va permettre d'acheter quelque chose d'autre en moyen d'échange. Vous pouvez éventuellement aussi devenir un moyen d'échange entre pirates.
Ah, c'est infini ces choses-là. Et en parlant justement d'incidents, des choses comme ça, Patrick, ça, moi, je vais venir quoi? Parce que je suis en conflit d'intérêts. Le gouvernement a subi des attaques?
Oui, exact. C'est un peu un sujet qui nous tient à cœur, qu'on parle souvent. Rehausser la sécurité de nos systèmes au gouvernement, au Québec, etc. Et il y a eu un article justement avec Steve, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, là, mais concernant la sécurité de nos ministères, donc il y a eu plusieurs demandes d'informations au gouvernement. Et ce qu'on s'est rendu compte, ce que le journaliste s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont faites dans plusieurs ministères et il n'y a rien qui est au même niveau. Donc, un ministère va dire « Hey, nous, c'est 100% sécuritaire, on n'a pas vraiment de brèche. » L'autre, il dit « Il y a eu 500 000 attaques contre nous, mais on s'est bien défendu. » L'autre, il dit que ça a été terrible. Certains ne veulent pas partager l'info. Donc, on est comme dans un mode où ce que aucune équipe de sécurité se parle, chacun fait ses choses différentes de son côté. Certaines équipes semblent s'avoir améliorées dans le temps. Je pense que c'était l'exemple du MTQ qui disait que, il y a quelques années, il y avait beaucoup, beaucoup d'attaques et que le chiffre est réduit. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi on n'en parle pas, tu sais? Mais de l'autre côté, tu as des ministères qui ne veulent rien dire. Donc, ils doivent avoir peur parce qu'ils n'ont peut-être pas d'équipe de sécurité ou ils ne veulent pas voir la réalité en face de ce qui est là. C'est un peu dommage. J'ai hâte de voir où c'est que tout ça va, vers où ça va aller. Mais il y a beaucoup d'améliorations à faire. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de communication à mettre en place, surtout dans des ministères qui sont supposés faire plus ou moins la même chose et en même temps que les attaques d'un doivent influencer les attaques de l'autre. S'il y a beaucoup d'attaques sur le ministère des Transports, pourquoi ils ne lèvent pas la main vers le ministère de la Santé et autres? T'sais, c'est sûr qu'il y a du threat intelligence à faire à ce niveau-là. Et je pense que la recherche du journaliste à ce point-là a montré qu'il y a une grande déficience justement au niveau de la com et au niveau de la diffusion, là. D'être fier de ce qui est fait, mais aussi de dire « Hey, on a besoin d'aide. »
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les trois petits singes. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. J'ai juste un exemple que j'ai vécu avec le protocole Zataz la semaine dernière. J'aide un gros assureur français à corriger une fuite de données sur leur site internet. Hein, le truc tout bête, hein, dans l'ID des clients, tu changeais le chiffre, tu voyais le mail apparaître des autres clients. Je les alerte, etc. J'ai appris qu'ils m'avaient blacklisté. Comment je l'ai su, c'est que deux mois avant de les alerter, parce que c'est en plus un client qui m'alerte, hein, il connaît le protocole, il se dit « Oui, par lui, ça ira vite. » Deux mois avant, il m'avait proposé de leur faire une conférence pour leur retraiter. Donc, moi, pas de problème, etc. Puis, j'ai plus du tout de nouvelles. Et j'ai appris par des gens proches de ce rendez-vous, etc., ben, qu'ils m'avaient blacklisté. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi, hein. À part le fait que je les ai aidés à corriger.
Ils ont peur, puis ils veulent pas l'entendre, carrément. C'est ça, c'est sûr. Je veux dire, ils veulent faire la sécurité par l'obscurité. Hein. Si tu leur dis pas, ils doivent être sécuritaires.
Rien de plus dangereux qu'un aveugle qui ne souhaite pas voir.
Ah, c'est triste, par exemple. Et pas surprenant, mais terrible à la fois. Hein.
Oh. Bon, passons au sujet suivant et encore. Le gouvernement ne paye pas assez?
Oui. Dans le fond, on a parlé dans les derniers temps, puis via le Facebook du Hackfest, on a eu quelques discussions sur ces publicités-là, justement l'article des attaques, etc. Et il y a eu une discussion par rapport justement à pourquoi au gouvernement, la sécurité, ça peut être difficile, la communication, les organigrammes, etc. Et justement, ils ont sorti un article cette semaine disant que les travailleurs, les fonctionnaires québécois, leur salaire est plus bas qu'au privé. Évidemment, je veux dire, ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on sait ça. Je ne sais pas pourquoi on en parle aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a levé ça. Mais oui, c'est le temps qu'il y ait un éveil à ce niveau-là. Puis c'est pas tant juste au niveau de la sécurité, là. C'est tous les TI, etc. Mais c'est extrêmement dur d'avoir du monde avec beaucoup de talent ou autre dans des domaines très, très niches comme la sécurité. Rester dans un ministère, quand au privé, ils vont avoir 10 à 30 à 50 % plus de salaire. Là. Fait que c'est un cas connu. Je pense qu'il faut en parler. Le lien va être dans les show notes. Mais c'est ça. Il faut que le monde en parle. Il faut que les employés aussi en parlent. Il faut que les choses bougent. Puis évidemment, si on veut s'améliorer, ben, il va falloir que ce point-là s'ajuste en même temps pour que le reste suive.
Ici, en France, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants qui veulent intégrer, on va dire, l'administration, en tout cas dédiée à la cybersécurité, parce que ça leur fait une jolie ligne sur le CV ensuite.
Tu vois ça comme une bonne chose ou c'est plus comme on joint, on sauve, puis on a une ligne sur le CV?
Ben, pour moi, c'est un peu gênant parce qu'on voit certaines administrations qui ont du mal à garder des gens soit de talent ou en tout cas utiles. Mon cœur balance, je peux comprendre qu'effectivement des gens souhaitent avoir une expérience intéressante qu'ils vont ensuite recommercialiser beaucoup plus cher ailleurs. C'est un peu comme nos sportifs, hein. On a pas mal de sportifs de haut niveau qui sont formés par notre pays, la France, et avec nos impôts, et qui après partent à l'étranger parce que c'est mieux.
Ouais, exact, on a le même concept ici dans beaucoup de domaines, là. Si on parle juste l'exemple des Olympiques qui revient régulièrement, que les athlètes sont payés, je pense, une affaire comme 10 à 20 fois moins que les États-Unis. Mais si tu prends le même concept en informatique ou autre, mais c'est sûr que ton monde va se sauver en courant là, vers la meilleure offre.
Mais les différences salariales sont quand même significatives. Dans un contexte de rareté au niveau sécurité, les administrations publiques ne sont pas bien équipées pour affronter un marché compétitif à ce point-là, où l'offre de services était de plus d'une surabondance de travailleurs versus maintenant dans un contexte de rareté. C'est peut-être plus compliqué pour eux autres d'adapter leur stratégie de recrutement et de rétention en conséquence.
C'est extrêmement dur, surtout justement dans les domaines plus pointus. Mais évidemment, l'article ne parle pas de sécurité, il parle en général. Fait que ouais. Le problème, s'il est en général, quand on tombe dans une spécialité qui est très pointue comme la sécurité, bien évidemment, le pourcentage est énorme là, en différence avec le privé. Puis évidemment que c'est pas un problème facile à gérer. Puis surtout si demain matin, le gouvernement s'en va et dit « Hey, on augmente tous les fonctionnaires de 30%, le monde ne sera pas heureux en même temps. » Tu sais.
Ah, il y a ça, puis je reprends un peu l'exemple de Damien aussi, parce que j'ai été en contact avec des Français en cybersécurité et ont tendance à vouloir, entre autres, immigrer au Québec, Canada, même aux États-Unis, parce que pour eux, justement, c'est exactement ça. Ils viennent chercher une expérience de base dans un SOC français pour exporter cette connaissance-là dans un lieu qui beaucoup valorise peut-être plus, au niveau salarial du moins, ce genre de travail-là. Donc, la peau du gain devient inévitable. On l'a vu aux États-Unis aussi, puis eux autres, ça a créé une certaine dichotomie intéressante parce qu'ils font beaucoup référence au patriotisme américain. Et en même temps, les gens sont de moins en moins intéressés à se faire flouer monétairement sur la base du patriotisme. Fait que il y a eu des débats assez houleux sur Twitter, entre autres, ce genre de choses-là, où les gens se faisaient déclarer comme quoi, c'est ça, t'es juste à l'argent, patriotisme.
Ouais, ouais.
Ça crée des zones inconfortables aussi, là.
Non, tout à fait. Dès que tu parles d'argent ou d'argent puis des bénéfices et autres, un peu plus... généralement, qui étaient des discussions taboues, là, puis qui commencent à sortir au public, ben on tombe dans des discussions que le monde sont pas toujours friendly, disons.
Ouais, ça laisse pas ce genre de choses. Hein. Mais enchaînons avec ta dernière nouvelle, c'est Erika tente de réformer les techno-gouvernements.
Oui, exact. Je pense que l'idée de base en arrière, l'intention est bonne. Je crois juste que l'approche est bizarre ou peut-être pas la bonne. La nouvelle étant qu'ils veulent arrêter les trips techno au gouvernement pour améliorer les choses, arrêter de dépenser, etc. Le problème, c'est que le gouvernement est environ 10 ans en retard dans tout. Donc, un trip techno installé de Java version 2000-2002, c'est pas un trip techno, là. Ça n'existe pas, un trip techno au gouvernement, malheureusement. Mais la grande discussion qui est sortie de là via Facebook et beaucoup d'endroits de discussion dans la dernière semaine, c'est surtout la définition du besoin. on parle. Le trip techno, je pense que c'était plus pour que l'article soit cool. Là. Mais la vraie réalité, c'est que les besoins, la définition du projet vers où qu'on s'en va est tellement déficiente que des trips plus ou moins techno ou des orientations qui n'ont aucun sens vont être mis en place et de l'argent va être dépensé en fou. Mais en même temps, ça, c'est un des points. Oui, il faut que le besoin soit là, mais il faut que tes employés soient formés, il faut que la connaissance soit interne. On a parlé de ça dans les derniers mois, qu'il y avait beaucoup trop de consultants qui se sauvaient avec les connaissances, puis les employés internes mais sont pris sans connaissance. Puis au gouvernement, si tu n'as pas une connaissance interne, mais c'est toujours un externe qui va être importé. Donc, c'est comme un beau servicieux. Je suis content qu'on en parle dans les médias, mais en même temps, je pense pas que c'est ça le problème. Je pense que le problème est beaucoup plus grand qu'un trip techno officiellement.
Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est un titre accrocheur qui a été mis pour attirer du lectorat versus la réalité de l'article elle-même. Puis pour,
exact.
Dans la limite où je peux émettre une opinion là-dessus, je trouve ça un peu déplorable que le gouvernement ne valorise pas davantage ses employés et mettre ça au détriment des consultants. Donc, c'est eux qui, comme tu disais, vont partir avec la connaissance, partent avec le contenu. Et il ne reste rien ensuite quand que, le party est fini et tout le monde a, sauf un mal de bloc infernal pour...
Ouais, exact. Puis je pense que c'est un des pires cercles vicieux qui existent en informatique au gouvernement. Oui, la définition du besoin joue énormément, mais si tu n'as pas d'employés qui se forment à l'année longue puis qui ont la possibilité de dire je connais pas cette technologie-là, puis on va le faire par nous-mêmes pour apprendre, comme ça se fait au privé partout. Je pense pas qu'il y a rien qui va changer tant que ça sera pas mis en place. Là. Parce que. Oui, vas-y.
Ouais, plaignez-vous pas, hein. Vous avez vu au Japon quand même le ministre dédié à la cybersécurité qui a annoncé qu'il avait jamais touché de PC de sa vie. Hein.
Mais c'est un autre cas qui a des visions différentes. Évidemment, c'est très drôle, mais en même temps, la personne peut tellement apporter quelque chose de différent, ça peut être intéressant, mais connaissant pas le domaine dans lequel qui est, c'est sûr que tu te tires dans le pied, hein. Surtout en le criant sur tous les toits comme ça.
Ouais, mais dans son cas particulier, moi, j'adhère plus au fait que c'est peut-être un leader, et dans ce contexte, c'est si c'est un leader, s'il ne connaît pas le contenu, on a un problème. Si on met ça en opposition, un gestionnaire qui, lui, n'a pas besoin de connaître le contenu, mais doit gérer adéquatement les équipes et les gens qui ont la connaissance.
Ouais, exact.
Ça fait, je trouve qu'il y a une frontière un peu entre les deux.
Non, j'approuve, mais c'est ça. On retombe encore dans les discussions qu'on a eues dans les derniers mois, dans les dernières années. Mais tant que le servicieux de la connaissance au gouvernement ne sera pas là, tant que ce cercle-là, qui est basé un peu sur l'open source, là, que personne ne peut apprendre par eux-mêmes sans impliquer des consultants ou autres, même si le besoin est défini, même si le budget est ajusté, même si tout est là, ben ils vont toujours retourner au fait que les personnes ne connaissent pas ça.
Ce qui est un peu, il y a deux affaires. Pour les consultants, normalement, ils devraient servir comme on voit ailleurs dans le monde, c'est-à-dire qu'on est des conseillers stratégiques. On arrive pour une période définie de temps pour apporter quelque chose à l'organisation. Et on apporte quelque chose à l'organisation, on ne s'enfuit pas avec. Donc, le fait qu'on donne notre connaissance, on la partage avec les gens en place, qu'ils l'assimilent, qu'ils l'intègrent, et qu'ils le mettent en pratique par la suite. Donc, de là, mais ça, pour mon expérience, j'ai vu très peu de cas où...
C'est rare ce que tu viens de dire. Mais c'est pas juste le transfert, c'est que les appels d'offres, c'est des consultants qui viennent réaliser des choses et non pas des conseillers stratégiques, comme tu dis. Le concept de stratégique, que tu rentres un mois, deux mois, trois mois, puis tu t'en vas en ayant formé la personne à l'interne, est vraiment peu là. C'est plus... Tu viens remplacer un employé à l'interne pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On a vu des cas 5, 6 ans, là, il n'y a plus. C'est plus du, je ne sais pas le terme en français, là, mais du staff hog, tu sais, remplacer le staff interne pour combler des besoins que les internes auraient peut-être pu réussir. Mais...
Dans un contexte, là, on va revenir à ton idée de base, là. Dans un contexte de manque de connaissances, il n'y a pas de pérennité, il semble ne pas y avoir de continuité. Tu es toujours à l'affût, en fait, à la botte d'un consultant ou d'une firme qui ne partage pas, laisse pas. dans un contexte syndiqué. Oui, c'est un sujet délicat, là. Quand tu viens parler de dotation, ouais. Là, tu rouvres une boîte de Pandore. Autrement dit, la petite réforme au gouvernement, ça risque d'ébranler les colonnes du temple. C'est que il va arriver que tu vas maintenir ton secteur abruti. Autrement dit, c'est beaucoup plus simple de dégager du budget, d'aller chercher une expertise externe. Oui, de l'assimiler, mais c'est que tu rehausses pas ensuite de ça tes critères. Rehausser les critères, ça veut dire reprendre le poste, regarder la dotation, regarder l'expertise nécessaire, rehausser, oups, c'est syndiqué. Fais attention, si tu exiges de la formation supplémentaire ou une expertise supplémentaire, là, tu nivelles par le bas ceux qui ne l'ont pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux autres? Ah, écoute, c'est un cercle vicieux. J'ai déjà rencontré ça, puis il faut être extrêmement prudent. Mais à un moment donné, tu l'as dit, tu es vis-à-vis un mur. Tu n'as pas le choix. T'attends. Plus t'attends, ben oui, pas juste la dépense. La dépense et la gestion de changement va être extrêmement pénible puis lourde administrativement. Mais des fois, il faut passer par là.
Oui, tout à fait, mais je pense que ton point est très valide, puis je l'avais déjà levé à un moment donné, mais c'est évidemment un sujet très épineux, dans le sens que tes syndicats, le cercle vicieux que ça crée, c'est que les personnes qui n'ont pas eu de connaissances depuis plusieurs années, qui ne se sont pas mis à jour, bien, par défaut, l'humain est fait que non, tu ne veux pas de changement, puis non, tu ne veux pas te mettre à jour. Fait que ton cercle vicieux te donne des personnes qui ne veulent pas s'améliorer et ne veulent pas aller d'avant. Puis en disant ça ici dans ce podcast-là, c'est sûr que certaines personnes qui vont écouter ça vont être frues ou fâchées de ça, mais c'est la réalité quand même.
Mais le prendre comme ça, c'est parce que les employés du gouvernement ne sont pas valorisés. Puis ça résume un peu ce qu'il dit. Parce que s'ils ne sont pas valorisés, puis ça revient de joindre le point de Vincent et de Patrick, si on valorisait davantage les employés du gouvernement, et non seulement, puis même de point de vue public, parce qu'ils n'ont pas une bonne cote au niveau du public, mm-hmm. on valorisait comment ils contribuent au fonctionnement, contribuent à la livraison d'une prestation de service, et dans lequel il y a beaucoup de gens qui dépendent de cette prestation-là. Donc, c'est à faire. Et j'ai vu dans le non-verbal de Damien que c'est beaucoup... j'aimerais ça qu'il s'exprime aussi.
Oui, Damien.
Ben, c'est intéressant justement de voir que c'est partout pareil. On a l'administration avec des gens qui passent un concours, qui passent des concours, qui veulent intégrer ce qui est censé être un métier et un emploi à vie, et que c'est de plus en plus compliqué à avoir des spécialistes et des techniciens dans ce genre de milieu, parce que, qu'on le veuille ou non, un ingénieur en informatique demande un certain nombre de pépettes, hein, qu'on le veuille ou non, pour pouvoir bosser et gagner de l'argent, clairement, et qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'il ait en face de lui des chefs de service, des responsables de service qui comprennent leurs besoins, comme tu disais, Nicolas, leurs besoins, l'argent qu'il va falloir extraire, mais comme en tout cas par chez nous, l'argent, il y en a de moins en moins, et je pense que dans toutes les administrations, c'est un petit peu pareil, ça devient très compliqué. Et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de pays étatiquement dangereux côté piratage informatique, hein, on parle de la Corée du Nord, on parle des Russes, des Chinois, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout le même problème administratif. On a l'impression qu'ils n'ont pas des gens qui leur disent « On va d'abord remplir 150 000 dossiers avant de pouvoir lancer une attaque. » Soit leurs attaques sont prévues depuis 50 ans, le temps que ça remonte les hiérarchies administratives. Je pense que c'est tout simplement des gens qui ne s'écoutent pas du tout dans nos administrations, hein, pour en vivre, pour en connaître quelques-unes. Il y a toujours le chef au-dessus qui veut prendre le dernier mot, et ça, c'est un peu compliqué.
Ouais, puis c'est un genre de sujet qu'on pourrait écrire un livre dessus qui serait très drôle, mais qu'on parlera de ça dans quelques années.
Mais ce qui ne doit pas enlever le fait qu'on a des gens de très grande qualité. J'en connais quelques-uns, par exemple à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, mais aussi à la CNIL. On a des gens de véritable qualité, mais il faut qu'ils puissent rester.
Mais c'est pas le point, c'est pas que tous les fonctionnaires sont pas bons, c'est que le point, c'est qu'ils sont très rabaissés et jammés dans un système qui ne leur permet pas d'avancer. J'ai vu des personnes qui, oui, sont là un peu pour la stabilité d'emploi, qui ne veulent pas changer, etc., mais que leur talent est incroyable, mais sont tellement pris dans une structure...
Et n'oublions pas qu'on a un problème, c'est que pour les administrés, les citoyens, la cybersécurité ou l'informatique, eux, ils ne le voient pas, ils payent des impôts, Mais le gars qui protège l'informatique, les structures informatiques pour le citoyen, il fait quoi? Il est derrière son bureau? Il fout rien? Non, il agit. Mais c'est pas des choses palpables. C'est pas une salle de sport, c'est pas une route, c'est pas une piscine. C'est assez compliqué. Et ça, je pense.
Ouais, c'est une certaine assurance.
Ouais.
C'est que tu payes du monde pour t'assurer que les choses vont bien. Si tu ne payes pas, ça ira pas bien. Puis. C'est sûr que visuellement, c'est très, très dur à expliquer. Puis déjà, le concept d'informatique à monsieur, madame, tout le monde est dur à expliquer. Imagine qu'on tombe dans de la sécurité, on est loin de la compréhension.
Pour monsieur et madame, tout le monde, il faut parler de Mario Bros et de Fortnite.
Ouais, exact.
Ça va aider un peu. Mais en tout cas, si on peut commencer à valoriser, puis on parle en tant de pays francophones, mais aux États-Unis aussi, ils vivent la même problématique dans la fonction publique américaine. C'est aussi grave et aussi malheureux que dans nos administrations ici. Fait que c'est pas spécifiquement dans notre côté, l'article ne spécifie pour localement ici, mais c'est mondial comme problématique au niveau des administrations.
Oui, tout à fait. La seule différence que je vois aux États-Unis, puisque mon emploi est là, c'est qu'il y a, tu sais, les fonctionnaires ici, comme on disait, sont peut-être un peu plus mal vus aux États-Unis avec le concept patriotique et autres. Ils sont mieux vus et plus vus dans une situation qui sont pris dans la bureaucratie, etc., versus le fait que tout le monde, ils sont pas très bons, etc.
Il y a quand même un certain niveau de dérision sur le fonctionnaire américain aussi. Puis surtout en sécurité, on n'est pas très doux face à aux fonctionnaires américains aussi, je pense qu'ils se font.
Non, mais tout à fait, sauf que le point, c'est que tout ce qui est NSA, FBI, etc., sont généralement vus comme étant très.
Ouais, mais là, tu triches, tu prends les gros.
Ouais, je prends les gros.
Les choses emblématiques américaines, mais si tu parles, genre, le ministère de l'Énergie, qui doit avoir du.
Ils sont bâchés plus.
Fait qu'ils vivent sensiblement le même problème que.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
De toute façon, c'est une question d'incitatif aussi, parce qu'une administration publique n'a pas les mêmes incitatifs qu'une compagnie privée ou chose. Puis même encore là, les compagnies privées, sur l'incitatif à protéger nos données, n'est pas très aligné avec eux autres.
Puis tu sais, dans les seuls exemples qu'il y a, c'est les gros joueurs de réseaux sociaux qui savent qu'est-ce qu'ils font en sécurité. Puis sinon, tu sais, t'as Target qui se sont tellement fait démolir. Qui sont rendus avec un des meilleurs SOC qui existent aux États-Unis, voire sur la planète. Mais ça, c'est parce qu'ils se sont fait démolir, parce qu'avant ça, c'était pas la
réalité. C'est ça, il faut que ça fasse mal financièrement, puis on revient à toute la valeur du RGPD, c'est-à-dire qu'il faut avoir un levier légal pour être capable de faire prioriser à ces compagnies-là ce genre de choses-là, mais aussi il faut également que les administrations publiques puissent prioriser à la même façon qu'on utilise le RGPD pour le faire, pour qu'on puisse. Parce que, comme citoyen, moi, je ne veux pas attendre un moment qu'on ait un cyber Pearl Harbor d'une de nos entités gouvernementales, ça va être un désastre. Puis là, je vise personne parce que nous autres, au Québec, on a tendance à parler négativement de nos propres infrastructures publiques, mais c'est partout pareil. Là, ça pourrait arriver en France, ça pourrait arriver en Italie, ça pourrait arriver aux États-Unis, une espèce de fuite de comme l'IRS aux États-Unis. Il s'agit que la base de l'IRS soit fuite aux États-Unis, puis c'est l'ensemble de la société américaine qui est dans la cochonnerie.
Mais Nicolas, tu parles de Pearl Harbor numérique. J'entends souvent ce terme utilisé. Mais ça va être quoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, les gars, mais côté fuite de données, côté site important piraté dont les données ont été volées, c'est loin d'être négligeable. Je prends l'exemple de Malte. Malte, là, cette semaine, ils viennent d'annoncer que l'une de leurs structures gouvernementales s'était fait voler toutes les informations des utilisateurs, carte d'identité, passeport, mail interne. Là, on voit Marriott, on voit Dell, on voit le roi du donut. C'est fou. Ça va être quoi le Pearl Harbor numérique? Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu. Il y a un moment, les gens, mais je suis désolé, mais le fait d'avoir perdu toutes leurs informations personnelles, quand on vous a volé vos données, votre identité, vos données numériques, pardon, hein, mais merde, mais la vie de ces gens, elle est finie sur le web. Ils sont partagés, diffusés, réutilisés.
Mais ça touche pas la vision de beaucoup de personnes. Les personnes qui sont affectées, évidemment, là, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de problèmes dans les mois qui suivent. Mais, je dis, on n'en parle pas, il n'y a rien. Puis, tu sais, dans les brèches, tu viens de le dire, il y en a tellement que c'est rendu presque un sujet banal.
C'est carrément ça. Hein?
Oui, on se désensibilise un peu comme plusieurs sujets très dramatiques. Tu vois ça dans les nouvelles, c'est comme un peu plus. Je pense que le Pearl Harbor, ça va être quand il va avoir un effet physique sur l'environnement ou sur la vie de société. Tu sais. si une ville complète dans un pays développé, là c'est plate à dire, mais c'est ça, si l'électricité tombe pendant un mois, l'impact va être réel. Le monde va faire « Hey, on aurait pu sécuriser notre infrastructure, tu sais, pourquoi on ne l'a pas fait? »
Ben, on regarde ce qui se passe aux îles de la Madeleine à l'heure actuelle, puis c'est terrible, là. C'est juste un câble sous-marin, deux câbles sous-marins qui ont été sectionnés, puis c'est la fin du monde, puis on amène l'armée pour aller les arranger. Fait que, ça ne nous prend pas grand-chose.
Une province ou un État américain que l'électricité est bloquée pendant un mois à cause d'une attaque, et là, c'est un phénomène naturel, là. Mais si c'est une attaque, ça va être fou. Mais là, propage ça sur plusieurs États, tout synchronisé en même temps, une vraie guerre, comme il se fait en Iran et autres avec Stuxnet et autres. Il y a eu des attaques qui ont droppé des communications pendant des semaines dans certains pays. Ici, il n'y a aucune communication là-dessus. Il n'y a personne qui a vu ça. Le grand public est aucunement au courant, mais c'est réel. Ça a déjà existé. Là.
Mais bon, je l'ai vu à la télé, on risque rien. Il y a Bruce Willis qui nous protège.
Ouais, surtout c'est Noël, on est safe. je pense que c'était les plus beaux mots pour finir l'épisode.
Ouais, je pense qu'on va bien pas pour l'épisode, parce qu'on va quand même clore le sujet avec ça, mais on va terminer avec une nouvelle peut-être un plus intéressante où la France et le Québec font des échanges pour l'Université Laval.
Ah, Damien qui nous fait son micro fermé une fois de plus.
Alors, comme je disais, avant que ce micro décide de se fermer tout seul, bien sûr, si vous êtes étudiant français, vous risquez de recevoir un courriel. Alors, on ne sait pas trop de qui. Hein. D'après le message, c'est un responsable de l'administration de l'Université de Laval. Et il vous explique que vous allez pouvoir eh bien, faire vos études gratuitement, totalement gratuitement, eh bien, à Québec. Alors, je vais être très clair avec vous, si vous recevez ce courriel, ne répondez structurellement pas du tout. Pourquoi ? Parce que ben, le courriel a pour mission d'abord d'intercepter vos données, nom, prénom, fonction, éventuellement études en cours. Et ensuite, j'y ai participé, hein. J'ai essayé de voir jusqu'où le malveillant, l'escroc allait. Et comme toute escroquerie, hein, il demande des frais. Alors, c'est gratuit, mais il y a des frais. Alors, il y a des frais pour l'avion, il y a des frais pour vous loger, il y a des frais pour prendre des cours. Le problème, c'est que ça fonctionne. C'est ça qui est dingue, c'est que ce genre de scam, hein, comme on les appelle, on connaissait les scams amoureux, les scams, je suis un roi africain, j'ai des milliards de dollars en or, vous ne pouvez pas les mettre chez vous. Bon, ben, là, c'était pour les études. On voit que, pareil, hein, ça réfléchit un petit peu à tous les moyens de voler de l'argent. Mais j'ai eu deux cas. Moi, j'ai eu deux cas de jeunes filles qui ont été jusqu'à fournir leurs documents personnels pour cette arnaque. Heureusement, elles n'ont pas payé. Mais voilà, tout est possible. Donc, du coup, je comprends ceux qui veulent faire leurs études du côté de Québec, mais faites-le d'une manière non seulement d'abord légale, et puis surtout, ne pensez pas que le Père Noël, même si c'est bientôt, existe vraiment. Hein. Ça, je vous le dis franchement, Nicolas, Patrick ou Vincent vous le diront, il n'existe pas. Pourtant, ils habitent pas très loin de lui, hein, mais non.
Si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement pas vrai.
Mais techniquement, Damien, tu es plus dans une latitude plus élevée que le nôtre. Donc, dans les faits, tu es plus proche du pôle Nord que nous, on peut l'être. Aussi étonnant que ça puisse être.
C'est juste qu'il vient prendre ses biscuits ici parce qu'il fait plus froid, mais ouais.
Vous venez de briser mon rêve, les gars. Vous voyez qu'il existe vraiment.
Et il est peut-être français, le Père Noël, puis c'est pour ça qu'il nous boude.
Non, non, il n'est pas français, sinon il risque d'être en grève le 24.
Oh. Oh là là. Sur ce, messieurs, on va clore l'épisode sur ce Père Noël en grève.
C'est ça.
On vous souhaite une excellente semaine en toute sécurité.
Ciao, yes. Ciao!
Justement.
Ciao!
One dignity delays for all, one mighty afternoon. None can avoid this purple, none evade this ground. Coaches and shores and footmen, chamber and state and throne. Bells also in the village, simply ride.
Eternity.